a magic number. 300 schemes to help bugs and bees, supporting environmental needs. 8,000 grants for local sports, and performing arts get our support.
7 millionaires every week, the nation's on a winning streak.
30 million pounds to good causes every week.
Who'd have thought it? These are magic numbers.
Your numbers make amazing happen. The National Lottery.
Rules and procedures apply. Players must be 16 or over.
Vous écoutez
RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos, putain, non, non. Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassin, c'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts, c'est qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière, il y en a aussi dans les stades.
Faut arrêter de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Super Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. Nous sommes en direct bien sûr dans l'After, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. L'After à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Avec Jérôme Rantaine. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et comme tous les jeudis sans match, c'est-à-dire pas mal de jeudis désormais puisque l'Europa League s'est terminé pour les clubs français. Et bien avec nous souvent Willy. Willy Sagnol, salut Willy.
Et salut à tous.
Nous on est contents.
Bah écoutez, les meilleurs voeux à tout le monde puisque voilà, c'est ma première année.
À peine arrivé, il s'est assis, Willy, et il était déjà très en forme. Il m'a et chauffé sur un thème qui est très important.
Ah bon, lequel?
Eh oui, oui,
l'ambassadeur de la Ligue.
Les histoires d'ambassadeurs de la Ligue.
C'est important ça.
Football français. Oui, parce qu'il dit des trucs qui sont vrais et qui m'agacent un peu.
Mais parfois quand on dit des choses vraies, ça agace souvent.
Non mais t'as raison, mais ça m'agace un petit peu. Ça, je suis sûr que ça mérite un peu plus.
Et c'est quoi les ambassadeurs de la Ligue?
Non mais là, regarde, là, il y a le tirage au sort.
D'ailleurs, le tirage est fait. Voilà. Reims PSG et Lyon Lille. Voilà les affiches des demi-finales de Coupe de la Ligue. Reims PSG et Lyon Lille.
Je sais, Jérôme, il me l'a dit hier.
En plus, je te l'ai dit.
Non, t'avais dit PSG.
Il a appelé les mecs de PKT.
Reims, PSG, je t'ai dit.
Oui, ça va, ils ont demandé l'inversion, mais ils l'ont pas prévu.
Et je t'ai même dit attention que Lille aille pas se qualifier en finale.
Voilà, voilà. On reviendra sur tes ambassadeurs, si tu veux bien, et tes Ferrero Rocher un peu plus tard.
Non, c'est ouais, mais c'est pas si
anodin. Sur ta coupe de cheveux aussi, parce que là, en ce moment, tu te cherches un peu, là.
Bon,
c'est catastrophique. Non, mais c'est catastrophique. T'as pas eu le temps d'aller chez le coiffeur.
S'il vous plaît, permettez-moi quand même de vous donner le sommaire du soir, c'est important.
Non, c'est horrible.
C'est quoi le problème?
Fred Hermel nous rejoindra tout à l'heure pour débattre de la Super Coupe d'Espagne. Ce sera vers 22h45, Super Coupe que nous ne voyons pas en France. Hein, donc, ça tombe bien. Fred nous racontera tout à l'heure actuellement.
Bon, je lance un appel à des coiffeurs compétents puisque je ne plais plus à Jérôme Bretagne.
Le match Barça-Atlético est en cours. Il y a 0-0, c'est la mi-temps. Tout à l'heure également, Julien Cazard sera là. L'événement ce soir dans l'After, les gars, c'est une plongée dans les détails de la préparation physique des joueurs de foot. Pourquoi se préparent-ils aussi physiquement en dehors de leur club? Avec qui? Toutes les infos à suivre et les débats au 32-16, bien sûr, avec vous. Tout à l'heure, à 22h20, on aura un préparateur physique avec nous. Avant, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, sera avec nous dans quelques secondes pour revenir sur la crise de la suppression de la Coupe de la Ligue. On parlera du football selon Claude Puel. Il a donné une excellente interview au Monde il y a quelques jours. On décryptera tout ça à 21h30. L'actu Mercato du jour, bien sûr, 21h50 environ. Et puis les ambitions de Rennes, ça ce sera à 22h. Rennes qui, oui, a des ambitions un peu cachées, mais on va vous les dévoilé dans l'After tout à l'heure. La chronique de Julien Cazard à 23h20, le quiz à 23h40, sans oublier Max, notre standardiste, bien sûr.
Ah oui, le combat viendra, de Max, c'est vrai qu'on est jeudi.
Comme tous les jeudis, lui donner les grandes tendances de la semaine au 32-16.
Avec les nouvelles vedettes, hein, les gens l'arrêtent dans la rue.
Ah mais c'est incroyable.
Bah, parce qu'il est bon.
Bah oui, mais c'est ce que je dis.
Le talent est toujours récompensé.
Bien sûr.
Regardez, vous êtes là,
je sais pas si c'est une
Jérôme, Willy, Daniel... Mais c'est parce que vous avez du talent.
Est-ce que ça commence à être une vraie reconnaissance?
Ouais, mais je soupçonne d'en jouer un peu trop quand même.
Qui, Max?
Ah ouais, attends, il passe son temps devant à l'entrée là, comme ça, il circule pour qu'on le voit. Attends, sans déconner, je crois qu'on l'a pas vu son jeu là.
C'est-à-dire, alors qu'il y a 15 jours, il était au standard, c'est ce que tu veux dire?
Bah oui, standard, il fait le beau.
Ah ouais, mais
c'est bien, mais
il a du talent.
Bah, écoute,
32-16, hashtag RMC Live, direct studio, on vous attend pour tous ces débats. Et donc, je rappelle une nouvelle fois les affiches des demi-finales de Coupe de la Ligue tirées au sort il y a quelques secondes par Pedro Miguel Paoletta. Reims recevra le PSG et Lyon recevra Lille. Voilà. La Coupe de la Ligue, on va en parler, comme promis, avec le président du Paris FC, qui désormais est un fidèle de l'After, on peut le dire. Pierre Ferracci est avec nous.
C'est un fidèle de l'After, mais il nous écoute pas. Hein. Il nous écoute vraiment pas.
Bonsoir.
Meilleurs vœux en tout cas à tous.
Bonsoir. Meilleurs vœux également.
Bonne année, monsieur Ferracci.
Alors. Merci. Allons directement à l'essentiel. Est-ce que, Pierre Ferracci, vous êtes contrarié par la disparition annoncée de la Coupe de la Ligue ?
Alors écoutez, d'abord, j'ai été un peu contrarié par ce que vous avez dit avant-hier, quand certains d'entre vous évoquaient le fait que les présidents ne s'étaient pas opposés à la décision.
C'était Daniel.
C'était Daniel, ça m'étonne pas. Il est toujours aussi critique, mais je l'aime bien quand même. Alors, je vais rappeler tout simplement l'histoire parce qu'elle est importante et pour moi, la coupe n'est pas supprimée, elle est suspendue aujourd'hui. Et c'est important de préciser qu'elle n'est que suspendue. Le 18 septembre, il y a eu un conseil d'administration et l'après-midi, il se trouvait que l'Assemblée générale était réunie. Le conseil d'administration devait discuter comme l'Assemblée d'un point de l'ordre du jour qui était intitulé ainsi « Proposition d'évolution du format de la Coupe de la Ligue et consultation du marché ». Au final, il a décidé de supprimer le matin et l'après-midi, au lieu de traiter ce point de l'ordre du jour, on nous a proposé de voter sur la suppression de la Coupe de la Ligue.
Et là, le vote a été majoritairement oui, il faut le préciser quand même.
Attendez, le vote a été majoritairement oui. Au conseil d'administration, 16 voix pour la suppression, 6 abstentions, aucune voix contre. L'après-midi, 34% de voix contre. Alors, comme majoritairement les clubs de Ligue 2 ont voté pour le maintien de la Coupe de la Ligue, 34%, il y a des droits de vote qui ne sont pas les mêmes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Je peux vous dire que ça fait plus de 40% des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Donc ça fait déjà une petite opposition sympathique, qui n'est pas reflétée d'ailleurs par le vote du conseil d'administration, ce qui est déjà un problème en soi. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut supprimer ou garder la Coupe de la Ligue. Je dis simplement que le débat n'a pas eu lieu. Et il y a quand même quelques conséquences financières importantes pour les clubs. Alors peut-être plus pour les clubs de Ligue 2 que pour le haut du panier de la Ligue 1. Parce que nous, cette année, pourtant, on a été...
Et c'est le haut du panier qui a poussé pour la suppression, il faut le rappeler.
Soyons clairs, c'est le PSG, l'OL. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas ne s'en cache pas. Avec tout le respect que j'ai pour lui, il avait ça en tête depuis un moment. Moi, je dis simplement que le débat n'a pas eu lieu. Et alors, la bonne façon d'illustrer que le débat n'a pas eu lieu, on était tous un peu sidérés. Donc, moi, le premier, d'ailleurs, je n'avais pas participé à la réunion du collège de Ligue 2 entre le Conseil et l'AG à 14h. Je suis arrivé en AG, j'ai découvert le sujet, je ne suis intervenu qu'après le vote. J'ai bien entendu voté contre la suppression, puisque le débat n'avait pas eu lieu. Et je précise que je suis prêt à entendre des arguments des gros clubs qui, en clair, veulent supprimer quelques créneaux qui les gênent, parce qu'ils sont en Ligue des Champions. Peut-être aussi qu'ils rêvent des championnats d'Europe fermés, dont ils ont essayé de mettre en place le système il y a quelques temps, etc., etc. Mais ça se discute, ça. Moi, je crois que ce sont des arguments recevables. Le débat n'a pas eu lieu, et c'est pour ça que pendant l'AG, il ne faut pas l'oublier, Noël Legret a proposé de suspendre et pas de supprimer. Donc, à l'AG suivante du 12 décembre, 3 mois plus tard, moi je suis intervenu pour bien faire préciser dans le procès verbal, et je pense que j'étais soutenu par pas mal de présidents. Vincent Volpe était intervenu le 18 septembre en disant
«
il y a des droits de télé qui ne sont pas, le président du Havre, qui ne sont pas négligeables ». Mais quand on reçoit le PSG ou l'OM, on fait aussi une recette importante. Allez demander au Mans ce qu'il en est quand ils ont reçu le PSG, ils ont rempli l'aréna du Mans. Hein. Donc, le 12 décembre, je suis intervenu pour dire, ben, il est bien clair dans le PSG que c'est pas suppression, c'est suspension. Et ça a été clarifié. Pourquoi je suis intervenu ? Parce qu'entre-temps, ce cher Jean-Michel Aulas, que je respecte et j'admire beaucoup pour ce qu'il a fait à Lyon, avait demandé à Nathalie Bois-de-la-Tour de ne pas remettre le point à l'ordre du jour, ce qui avait été demandé par Claude Michy, le président de l'UCPF. Il avait bien dit qu'il y avait un trouble, que le nombre de votes contre à l'Assemblée ne représentait pas l'absence de votre contre au conseil d'administration. Donc, au final, la coupe est bien suspendue, reste maintenant à l'exécutif, à Nathalie Bois-de-la-Tour et à Didier Quillot, et au conseil d'administration, de voir ce qu'ils vont faire de cette suspension. Parce que si vous gardez ça suspendu pendant 5 ans, ben elle va disparaître.
Mais évidemment.
Donc, il faut clairement dire aujourd'hui, est-ce que c'est suspendu pour 1 an ? D'abord, est-ce que c'est suspendu l'an prochain, d'ailleurs ? Est-ce que c'est suspendu pour 2 ans ? À quel moment on se revoit ? Et là, il faut qu'il y ait un vrai débat. Et moi, je vais vous dire, le vrai débat, il faut qu'il soit large. Parce que derrière ce problème de Coupe de la Ligue, il y a un enjeu essentiel qui est la répartition des droits de télé. Et évidemment, n'oubliez pas que depuis que les droits de télé ont dépassé le milliard, et c'est tant mieux pour le football français, il y a quelques clubs importants qui s'interrogent sur la répartition qui a été actée il y a 3 ans au moment où l'UCPS et Première Ligue se sont fait pareil.
Donc là on va sur un autre terrain. Restons sur la Coupe de la Ligue.
Ouais.
Est-ce que vous estimez, bah, puisque vous avez dit que j'étais allé trop loin dans mon propos l'autre soir, ouais, que assez de présidents, parce que finalement, moi j'arrive pas trop à comprendre, ou est-ce que ce que j'ai dit était pas juste. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a assez de présidents qui se sont manifestés pour dire on est contre cette décision? Mais j'ai toujours pas le sentiment après ce que vous venez de dire.
Alors, Daniel, d'abord le vote de plus de 40% des présidents en nombre à l'Assemblée Générale est quand même un signe.
Bon, c'est vrai. C'est vrai. Alors,
peut-être que s'il y avait eu un débat, il y en aurait eu moins de 40%, peut-être qu'il y en aurait eu plus.
Oui, mais moi, le débat, c'est pas moi qui vais venir pour l'organiser, le débat. C'est à vous, entre présidents des clubs pro, à faire en sorte qu'il y ait le débat. Alors, nous, on est là. Nous, malheureusement, moi, je veux bien organiser le débat. Mais moi, je suis là pour constater.
Je rappelle que Pierre Ferracci est avec nous.
Des gens ont eu l'air. Attends, je donne mon point de vue. Que j'ai eu l'impression que certains présidents, vous avez cité, les présidents des clubs forts. On a eu le sentiment, vu de l'extérieur, qu'ils vous ont imposé leur décision. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça?
C'est mon sentiment aussi, et tout le monde le sait. Encore une fois, je respecte leurs arguments et je pense qu'ils sont qu'on peut en débattre tranquillement. Mais je trouve qu'il y a un problème de gouvernance aujourd'hui,
voilà,
et que ce qui s'est passé au Conseil n'est pas raisonnable par rapport au vote de l'AG qui était fortement minoritaire. Et moi, ceux qui m'ont écouté savent que j'ai interpellé le Conseil d'administration. Je suis même revenu sur le vaudeville de l'affaire Gazélec Paris SC, où le conseil d'administration a pris une décision qui est contraire au règlement de la CD, contraire au règlement de la Ligue, et contraire
affaire qui est très longue à expliquer.
Non, c'est un problème de gouvernance.
Voilà. Ça, c'est ce qui revient dans la bouche aujourd'hui de beaucoup de présidents. Oui. Donc, c'est important que vous le disiez.
Mais donc, on ne peut pas dire, comme tu disais, que c'est Nasser El Khelaïfi qui a enterré la Coupe de la Ligue.
Je suis d'accord avec vous, Daniel. Je pense qu'à un moment donné, c'est plus le mode de fonctionnement du conseil qu'il faut critiquer que la position de Nasser ou de Jean-Michel, qui est parfaitement légitime.
Ola, ça joue un rôle tout aussi important.
Oui, exactement. Oui, parce que Nasser s'est exprimé.
Oui,
alors,
oui mais non, voilà. Mais c'est donc, les... C'est
non, mais,
c'est
alors, moi, ce que je retiens, c'est que quatre gros clubs...
Jean-Michel n'est pas membre du conseil, d'ailleurs.
Quatre gros clubs, en gros, ont enterré la Coupe de la Ligue, alors que la majorité n'a pas pu s'exprimer. C'est quand même un problème, effectivement, majeur de gouvernance. Donc,
je pense qu'il était nécessaire pour le conseil, et notamment pour l'exécutif de la CD, au moins de faire débattre l'AG sur les deux options d'ailleurs d'évolution du format qui avait été proposé. Je pense que ni le Conseil ni l'AG n'en ont débattu et qu'il fallait surtout que l'exécutif du Conseil étudie les conséquences financières mais aussi sociales, hein, parce que vous supprimez la Coupe de la Ligue, il y a des emplois supprimés à la Ligue, hein, ça fait tourner aussi la machine. Hein.
Alors, donc, je rappelle la proposition, c'est la proposition de l'AFTOR, mais à la base c'est la mienne, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec celle-là, mais la Coupe de la Ligue, on aurait très bien pu la donner à une chaîne en clair. Aujourd'hui, il n'y a plus de foot à la télé gratuit, ou quasiment plus. Ça aurait permis une exposition des clubs.
Oui, si
on l'a donné
si
à France Télévisions.
Si les clubs ne touchent plus d'argent.
Mais attendez, je vais aller plus loin. L'appel d'offres a été infructueux. Mmh. Moi, sur un plan professionnel, des appels d'offres infructueux, j'en connais. On en refait un deuxième, on baisse un petit peu la garde.
Oui, bien sûr.
En gratuit, et puis ça repasse. Et puis on fait une campagne. Je veux dire, on dit par exemple que la Ligue n'est pas populaire. Hier, il y avait 40 000 personnes au parc. Il y en avait 20 000 à Lyon, il y en avait 19 000 à Lille, il y en avait plus de 10 000 à Reims. Bon, pour une coupe qui n'est pas très populaire, c'est quand même pas mal. Alors, c'est vrai qu'on est en quart de finale, qu'il y a de belles équipes, mais enfin, on va un peu vite avec certains arguments. Donc moi, pour être clair, parce que j'ai horreur de l'hypocrisie, je dis que je n'ai pas de point de vue affiché aujourd'hui, mais je suis plutôt pour la maintenir, comme beaucoup de clubs de Ligue 2, et à mon avis, quelques clubs de Ligue 1 aussi. J'ai au moins un président de Ligue 1 qui est au conseil d'administration qui m'a dit j'étais pour la maintenir, mais comme tout le monde votait dans le même sens, je me suis abstenu. Bon, je lui ai dit, tu aurais mieux fait de voter contre. Ça aurait fait déjà au moins une voix au conseil d'administration qui se serait exprimée. Mais encore une fois, Daniel a raison de dire que c'est pas Nasser et c'est pas Jean-Michel. Encore une fois, leurs positions sont respectables. Mais vous n'avez pas raison de dire qu'on ne s'est pas exprimé. Plus de 40% des clubs à l'AG ont voté contre.
Merci Pierre Ferracci.
Ce que je disais, M. Ferracci, c'est qu'il y en a certains qui n'ont pas eu l'air de s'intéresser au dossier aussi bien que vous. D'ailleurs, c'est un petit peu, alors, soit je comprends mal, mais ce que vous sous-entendez avec l'anecdote de ce président qui dit bon, je ne savais pas trop, j'ai suivi un peu le mouvement. Quoi.
Ben, de temps en temps, il y a des positions moutonnières, effectivement. Il y en a d'autres qui se sont exprimés avec moi dans l'AG. aussi bien le 18 septembre que le 12 décembre. Oui.
Alors, Pierre Ferracci, président du Paris FC, je conclurai en disant que quand vous, la dernière fois que vous êtes venu nous voir en studio, vous nous aviez annoncé du changement dans votre club. Il a eu lieu. En l'occurrence...
Je confirme.
Voilà. Et vous ne le savez peut-être pas, mais René Girard est un grand ami de l'afterfoot.
Ouais, c'est un amoureux de l'afterfoot.
C'est une qualité supplémentaire.
Voilà, et on aimerait beaucoup qu'il vienne nous voir en studio ce soir, donc vous pouvez lui passer le message.
De
notre part.
De demain à Sochaux.
Merci Pierre Ferracci.
Merci pour les précisions, à bientôt.
Merci, bonne soirée. À bientôt. Alors, tout ça, il y a un peu technique. Enfin, ça en dit long quand même sur le fonctionnement.
Ce qu'il faut retenir, parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de s'attarder dessus, c'est qu'il a raison de dire un premier appel d'offres infructueux n'aurait pas dû ou pas pu empêcher. On en lance un deuxième.
Oui, mais c'est normal.
Si
la logique, c'est
10
ça.
Sur le premier, peut-être que dans le deuxième, tu prends 5.
Un peu plus, ouais.
Et qu'il y a certains clubs qui auraient croqué dessus.
Ouais, ouais.
Et que, encore une fois, si Lyon, si Paris ne veut pas mettre un seul joueur de son équipe, on va dire, de son équipe Fagnon et veut mettre, j'en sais rien, moi, une équipe B. Qu'on n'aille pas faire chier dans des débats, clubs en disant, ouais, il respecte pas la compétition, il met pas équipe et tout ça dans ces cas-là.
Moi, je constate quand même.
Mais il y a des gens qui disent ça.
Ils en veulent pas de la compétition, mais ils ont fait quoi hier, le PSG? Ils ont mis leur 4 fantastique, ils ont pas fait tourner du tout, Et Lyon, ils ont pour leur objectif numéro 1, alors qu'ils en veulent plus,
c'est. On en revient à ce que je dis. Ils s'en sont servis comme d'un match d'entraînement, donc on les laisse libres ensuite de mettre soit la bonne équipe,
mais c'est pas eux qui sont polémiques. Mais c'est pas eux qui sont visés sur le turnover. C'est pas eux.
Qui?
Le PSG, Lyon, les gros clubs, c'est les plus petits. Là, on parle.
Regarde, à chaque fois qu'une grosse équipe met l'équipe B, ils s'en foutent, ils snobent la compagnie.
J'aimerais que Willy donne son point de vue sur cette histoire.
Ouais, après il y a un point très important à préciser qu'il a sous-entendu sur lequel il faudra revenir.
Willy.
Non, après, alors moi déjà pour parler, parce qu'il parlait de problèmes de gouvernance à la Ligue, même moi qui suis donc ancien joueur de foot, entraîneur, on va dire que je m'intéresse un petit peu au foot français, mais moi je n'y comprends rien. Entre les AG, les comités de les conseils
les
de
commissions.
Les commissions, oui. les familles, à la fin tu sais plus qui décide, tu sais plus qui fait quoi, tu sais plus qui a le dernier mot, tu ne sais plus rien.
C'est vrai que c'est assez compliqué.
C'est l'armée mexicaine. Ensuite, il y a une chose, c'est que
en gros, il y a un conseil d'administration restreint qui prend les grandes décisions,
oui.
Qui est validé ensuite par une assemblée générale où tout le monde est présent.
L'Assemblée Générale, c'est une...
Mais entre-temps, il y a effectivement des réunions entre collèges, ligues de Ligue 1, etc.
Des syndicats, des trucs... Après,
tout le monde est représenté.
Mais c'est pas parce que tout le monde est représenté, c'est comme si tu es dans une cuisine, tu mets 20 chefs cuistots, le plat qu'ils vont faire, il va être dégueulasse.
Après,
chacun veut mettre sa
chacun
sauce.
Chacun doit avoir son mot à dire.
Non mais que tu aies ton mot à dire,
c'est que certains ne disent pas leur mot, se désintéressent un petit peu et font comme le fameux président dont on sait pas.
Parce qu'il a laissé couler, parce que peut-être que l'autre président qui était pour la suppression lui a dit
comme toi.
Je t'achèterai un joueur.
Mais ça, c'est pareil à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale, t'as des mecs qui votent, ils font comme le
Ce que je reproche quand il y a des décisions comme ça, c'est que les décisions sont prises toujours sous le prisme économique.
Tu veux que ce soit pris comment sinon ?
Mais à un moment donné, tu dois te dire, est-ce que la Coupe de la Ligue, ça a un intérêt sportif ?
Pour certains clubs, oui.
Pour tous les clubs, il y a un intérêt
sportif.
Oui, mais
après, chacun verra midi à sa porte sur le fait d'aligner telle ou telle équipe.
Mais oui, mais la preuve que non, qu'il y a un intérêt sportif, on en parlait hier, Jean-Michel Aulas, il n'en voulait pas, et aujourd'hui, c'est sa priorité.
Donc pourquoi aujourd'hui, à chaque fois qu'on doit prendre des décisions de réforme ou de choses comme ça, c'est toujours, comme on dit, sous le prisme économique? Et à un moment donné, le foot, c'est alors oui, l'économie dans le foot est importante, c'est ce qui fait tourner le foot. Je suis d'accord.
La Coupe de la Ligue a été créée pour des raisons économiques.
Mais tu peux pas.
Donc qu'elle s'en aille pour des raisons économiques ou maintenue pour des raisons économiques, puisqu'à la base, c'est une création économique. Le chien va se prendre la queue dans ton raisonnement. Tu comprends?
Non mais je suis d'accord, mais je dis juste que c'est toujours le même mode opératoire.
Oui, j'ai bien compris.
Pour prendre des décisions, ça crée énormément de frustration parce que ça représente pas, on va dire, soit une majorité, soit un, je dirais une, au moins un consensus. il y a toujours, c'est tout, toutes les décisions sont prises par des minorités qui à un moment donné ont poussé,
là, là, en ont travaillé un petit peu. Et s'il n'y avait pas une majorité, ça ne pouvait pas passer. Il y a eu une majorité. Il a dit c'était un 60-40.
Ce qui est gênant, c'est qu'il y a un suivisme des présidents.
Voilà.
C'est un peu gênant.
Mais, ça se fait toujours par derrière.
Ouais, mais nous, on l'aurait bien gardé.
Oui, mais ça se fait par derrière. T'as quatre tournées.
Non mais
bah, tu comprends.
Mais c'est tu vas pas tenter de convaincre un convaincu. Ah oui,
un
Daniel.
Moment, si quelqu'un vient essayer par derrière, tu vas te retourner.
Non mais bien sûr. Bon, bah, voilà. Mais le problème c'est que c'est toujours tiens, ne dis rien. Je t'achèterai un joueur. Ne dis rien. Je vais te prêter un petit jeune. Tu vas pouvoir te sauver. Ne dis rien. C'est que comme ça. Et aujourd'hui, c'est le foot français qui est en otage de ça.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon, alors, on voulait faire le point là-dessus.
Attends, Daniel. Il y a un petit truc quand même pour aller plus loin dans le raisonnement économique que tu viens d'évoquer, c'est que il l'a un peu dit. Ferranti, c'est que si on reste sur la base de, après tout, même s'il y a 10 000 au lieu de 20 000, 20 000 au lieu de 40 000, et que tu prends 5 au lieu de prendre 10, la compète pouvait continuer. Se demander pourquoi, maintenant, les gros clubs, et en l'occurrence vraiment fort, Marseille, Lyon, Paris, se sont dit, si ça dégageait complètement du calendrier, ce serait pas plus mal plutôt que de dire oh la garde et je te mets l'équipe B, j'en ai rien à cirer. C'est parce que
le champion européen va arriver.
C'est parce que dans la tête de ces mecs-là, il y a la préparation, qu'on le veuille ou non, et qu'on veuille. J'insiste, ça fait 3 mois que je parle de ça tellement je crois que c'est important. Non pas que je défende ou pas, j'essaye de dire à quel point c'est un dossier qui est sous-jacent, dont tout le monde parle. Dégager le calendrier pour au cas où arrive la fameuse ligue fermée, le championnat, les dates soient prêtes et le calendrier soit déjà tout propre et prêt.
Non mais si tu vas
à
pas
ce faire... point voulu
Daniel
si
c'est
on
impossible.
A ce point voulu la supprimer, je pense c'est pas. Qu'il y a un je peu
pense
de
pas.
Ça
moi, je pense pas. Pourquoi? Parce que en enlevant les dates de la Coupe de la Ligue, t'enlèves combien de dates?
Tu nettoies un peu.
Non mais pour le PSG, t'enlèves combien de dates?
4.
Quatre. Tu vas pas faire une super, une ligue européenne avec 4 dates.
Exactement. Voilà. Je suis d'accord.
Je pense pas que ça y soit derrière.
Tu fais un peu plus de ménage dans ton calendrier, ton championnat.
Concluons là-dessus, messieurs. Alors tiens, j'ai la liste des présidents de Ligue 1 qui ne font pas partie des gros clubs au conseil d'administration. Donc, pour essayer de deviner celui dont parlait tout à l'heure Pierre Ferracci, il y a Joannin d'Amiens, il y a Kita de Nantes, Nicolas de Montpellier et Caillot de Reims, entre autres. Voilà.
Oh, Kita, il a dû suivre parce qu'il se prend pour un gros club. Gros président, pardon, pour un gros club, parce que Nantes est un club.
Ça pourrait être Joannin, qui est un gars, un type très intelligent et très, comment dirais-je, au fait de tout ce qui se passe concernant son club d'Amiens.
Un peu atypique.
Et qui, à mon avis, est un peu atypique et qui, à mon avis, est totalement pour le maintien de la Coupe de la Ligue.
Heureusement encore.
Pour le maintien, oui. Mais toi, je crois que tu disais celui qui a voté contre.
Ah non, mais qui disait j'aurais voulu voter contre, mais en fait, comme tout le monde l'a fait, j'ai rien dit.
Ah non, bah alors là, tu dis que c'est un mec intelligent et d'un coup, tu.
Qu'il a fait le suiveur.
Non, là, c'est pas.
Oui, parce que Caillot, il y tient, la preuve.
On a vu
j'ai J'aimais l'hypothèse du plus Kita qui suit les gros parce qu'il pense qu'il préfère manger à leur table.
C'est plausible.
C'est vrai. Moi, je pense que si t'as un congrès des présidents et tout, Guita, il demande à la table. Attends, moi je veux là-bas.
Attends, à côté de Jean-Michel. Je suis aussi important que Jean-Michel aujourd'hui.
Bah oui, c'est sûr.
Il est obligé de faire son petit rire de hyène là.
Non, mais il a raison.
Non, mais parce que j'imaginais finalement, il est d'accord. Quoi.
Il a raison, c'est vrai.
Sur Direct Studio, me dit mais comment ça, René Girard est devenu un ami de l'after? Mais bien sûr que non. D'ailleurs, nous avons.
Ironique. Mais
je pense qu'il a pas compris.
Il a pas compris.
Il a dit tant mieux, je vais lui dire demain. Je pense que là, il va se transpirer.
Je vais lui dire casse-toi.
Je pense qu'il est capable de casser le dessin.
Ah oui, bravo. J'avais pas compris, je pensais que
c'était ironique. Pierre Ferracci est un homme qui a beaucoup d'humour, lui aussi.
Oui, ça va
le faire marrer. D'ailleurs, René Girard est le bienvenu dans l'after quand il veut pour discuter foot avec
tout.
Maintenant qu'il habite à côté de chez nous, quand même, puisque son stade est
à
2 km.
Où est-ce qu'il habite? Parce que tu crois qu'il a pris un appart près de Charletti?
Il n'est pas très parisien.
Près d'Orly. Orly, c'est là-bas, il s'entraîne maintenant.
Orly, ouais. Très beau centre.
À côté de l'aéroport, là?
Je pense qu'il est bien.
Comme ça, il peut prendre l'aéroport pour rentrer à Montpellier de temps en temps. Enfin, à Nîmes.
Peut-être, qui sait. Qui sait?
Il est à côté de Nîmes, lui, je crois.
Ah, ça va, il a eu le temps d'en profiter de sa région.
En tout cas, René Girard voulait une nouvelle fois rendre un hommage à l'after. Willy, écoute ça, c'est un document exclusif, comme on dit dans le monde de la presse.
Exclusif.
J'ai écouté des petits merdeux sur Radio Monte Carlo à After Foot qui se permettent de dire que je mets le bordel tous les samedis. Les gens ne sont pas au courant des propos qui sont tenus. Alors quand on ne sait pas, on ferme sa gueule.
René, viens nous voir. René, on t'attend. On veut discuter foot avec toi. Allez, dans quelques instants, on passe au dossier suivant. On va parler de Claude Pelle.
Non, mais moi, après, il a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je retiens juste. Vous êtes des petits merdeux. Vous êtes des petits merdeux.
Mais c'est les deux, là, parce que moi, j'étais pas là.
Ah, lui, t'as une idée, mais.
J'étais pas là.
Depuis qu'il est arrivé avec nous, on n'est plus des petits merdeux, on est des grands merdeux.
Ah, d'accord. Excuse-moi.
On nous a apporté un peu de hauteur.
Un peu de hauteur.
Voilà.
Le foot, vu par Claude Puel dans quelques instants, il a donné une interview très intéressante au Monde et on va en débattre dans quelques instants tout de suite avec vous. Tu as un supporter lillois qui avait vu passer Puel, supporter niçois monégasque qui avait vu passer Puel. Si vous êtes étonné par ses propos ou supporter de Saint-Etienne, appelez-nous
32-16. RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Avec Willy Sagnol, avec Jérôme Rantel, avec Daniel Riolo, bien sûr. Tout à l'heure à 22h, des infos rennaises à suivre. Et puis notre grand dossier préparation physique, donc ce sera tout à l'heure. Pour l'instant, on parle de Claude Puel. Pourquoi, messieurs? Et on vous attend au 32-16, nombreux pour réagir. Claude Puel a donné une interview, super intéressante. C'était il y a quelques jours, hein, dans Le Monde. Voilà, une interview de notre confrère Clément Guillou, que je cite, parce que vraiment, bravo mon gars.
Jean-Marc.
Je ne sais pas s'il y a un nom de famille. En tout cas, Patrick. Claude Puel parle de son métier, de l'évolution de son métier. Il est quand même coach depuis un moment maintenant, hein, Puel, depuis la fin des années 90. Et donc, il a fait pas mal de clubs. Il est passé par l'Angleterre. Voilà, il commence à avoir une expérience quand même assez conséquente. Et il parle de l'évolution du métier, du foot français, des joueurs français en général. Et c'est quand même très, très instructif. D'abord, je parle de son rôle d'entraîneur. Je vais vous citer ce qu'il dit, parce que là, c'est à l'écrit. Donc, on ne peut pas vous le faire écouter. Et là, Willy, on va te demander de réagir en premier, parce que il dit, moi, quand j'ai débuté dans le métier en 99 à Monaco, on considérait qu'il fallait 2 ou 3 ans pour monter une équipe. Maintenant, on te demande d'être opérationnel en moins d'un mois et demi avec des joueurs qu'on connaît pas et qui eux-mêmes doivent s'acclimater à un nouvel environnement. Aujourd'hui, l'argent est investi, donc il faut forcément des résultats immédiats, peu importe la façon. Voilà ce que dit Puel. Pour lui, c'est la principale évolution du métier. Tu souscris à ce...
C'est la tendance, oui. C'est ce qui, depuis 20 ans, c'est un des gros changements. Après, en plus, ça tombe bien, puisque Claude, quand il a débuté comme entraîneur, j'étais un de ses cobayes.
Bon, donc ça, c'est... Non, mais c'est assez...
Cobaye.
Non, cobaye, mais très gentil. Oui, dit de manière très gentille.
T'étais son leader.
Moi, non, pas du tout, non.
Ça en dit long à l'attachement du club, ça en dit long sur les attentes de la gouvernance. Et justement, là, il ajoute un truc très intéressant. Il dit « L'apparition de propriétaires étrangers dont le club est la danseuse, qui n'ont pas de connaissances profondes du foot, qui viennent avec des fonds d'investissement, qui développent une urgence, qui arrivent avec une équipe dirigeante clé en main, montée par un agent, c'est ça la nouvelle donne. Et maintenant, un entraîneur doit faire partie de ces structures-là. »
Dans cette phrase, le plus important, si vous me permettez, tu me diras ce que tu en penses, Willy, Jérôme, vous me direz. Ce qui est le plus important dans cette phrase, c'est monté par un agent.
Je suis bien d'accord.
C'est ça qui est le plus important dans l'évolution le lien qui est fait avec les nouveaux investisseurs. C'est ça qui est le plus important.
Et moi, je vais mettre.
Et le problème, c'est que les agents sont beaucoup des agents étrangers. Ces grands agents qui montent des structures donc ils ont des méconnaissances aussi parfois de la spécificité locale.
On avait le débat, Jérôme, sur Liliadji et son agent il y a deux jours, qui a fait beaucoup parler. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'impression que c'est les agents qui dirigent le football. Moi, ça me fait peur.
Pour certains clubs qui vivent principalement des transferts et de la revente du joueur, c'est-à-dire.
Donc des gens qui n'ont aucun attachement à aucun club, et qui ne pensent qu'au pognon.
Non, parce que de plus en plus.
Mais oui, mais c'est 60-70% des clubs, 90% des clubs en France, 60-70% des clubs en Europe, je dirais même plus. En fait, il ne reste qu'une poignée de clubs qui ne fonctionnent pas comme ça et qui sont là pour, on va dire, le sport et la compétition.
Mais pas beaucoup, il y en a pas beaucoup parce que
il y en a pas beaucoup, mais c'est pour ça qu'on
sur le fait que
on va en revenir à Malik Fermé, mais c'est pour ça que c'est inexorable.
Sur le fait que les agents ont un rôle de plus en plus important. Oui, en effet, et tu le constates.
T'inquiète.
Oui, ça m'inquiète parce que on en revient toujours au modèle économique et je pense que c'est l'argent avant tout et que t'arrives pas à transmettre à la nouvelle génération certaines bases qui sont essentielles pour le football et pour moi qui sont essentielles pour les amoureux du foot, pour les passionnés, les supporters, tout ce que tu veux. Je pense que tu dois inculquer des valeurs à cette nouvelle génération et pas les valeurs économiques dans un premier temps.
Mais
le problème, et c'est pour ça que je te disais que ils sont de plus en plus importants, c'est parce que c'est pas forcément les agents qui bossent avec les joueurs, parce que les joueurs aujourd'hui les jeunes joueurs à 12-13 ans, ils ont déjà des agents. Donc ça, c'est dramatique. Mais bon, ah oui, peu importe, c'est le modèle qui est comme ça et tu peux pas aller contre.
Il faudrait pouvoir le changer. Il faudrait interdire aux joueurs de moins de 18 ans d'avoir un agent.
Aujourd'hui, et même si t'interdis, à l'arrivée, ils arriveront d'une certaine façon à s'en occuper quand même si c'est pas officiel. C'est comme certains qui me disent des agents sur des gamins de 17 et 16 ans. Oh, nous, on touche pas d'oseille, hein, on touche pas d'argent, on n'a pas le droit, ils sont mineurs. Mais vous foutez de ma tronche ou pas? Mais c'est pas possible. Ils s'arrangent toujours, soit avec les clubs, soit avec les trucs. Et c'est pour ça que je te dis, pour finir, ils s'occupent pas forcément des joueurs. Aujourd'hui, ils sont mandatés carrément par les clubs. Par exemple, Thomas Lemar, je vais te prendre l'exemple de Thomas Lemar parce que je connais Thomas Lemar, le club de l'Atlético Madrid veut s'en séparer. Lui, il ne veut pas. OK? Et ben, ils ont quand même mandaté deux agents pour trouver des clubs. Donc c'est à eux. Alors eux, ils connaissent pas l'histoire de Thomas Lemar ou l'histoire de l'Atlético Madrid. Ils en ont rien à faire. Ils vont aller faire le tour de l'Europe pour trouver un club avec une telle proposition. Voilà, prendre la com et voilà. Et voilà le business comment il est. Et ça, c'est dramatique.
Alors moi, il y a sur le dossier des joueurs dont tu viens de parler et ce que tu dis est très juste. Il y a une évolution claire dont j'ai pris conscience. Pendant longtemps, j'étais assez sévère. Et je visais les joueurs en disant ils s'en foutent, je les mettais au centre un petit peu de la responsabilité. Aujourd'hui, parce que les choses évoluent, nous on évolue aussi dans notre avis, on se renseigne, hein, moi je ne peux plus en vouloir aux joueurs. J'ai terminé avec ça, parce qu'aujourd'hui, je sais que les joueurs, ils sont pas plus cons qu'un autre. Ils ont compris comment fonctionnait le système en France, ils ont compris où en était notre football. Et comme ils sont pas plus cons qu'un autre, ils savent très bien qu'il faut qu'ils profitent du système parce que eux sont les produits de ce système et ils savent que les clubs et les présidents s'en servent comme de la chair à canon et comme des produits à revendre. Donc, je ne vais pas aller reprocher à un joueur, Liadji ou un autre, à ses parents, machin, en disant de toute façon, t'as pas envie de jouer pour ton club, t'as pas envie de ceci, t'as pas envie de cela.
Ah, tu peux lui reprocher, quand même.
Oui, mais...
Mais pourquoi?
Pourquoi? C'est difficile, pourquoi en fait. Pourquoi tu peux lui reprocher? Parce qu'eux savent que, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont être une monnaie d'échange. Ils vont être revendus.
Oui, mais...
Donc, leur investissement...
Ça a toujours existé, ça, que le joueur soit une marchandise.
Non, parce que... Pendant longtemps, les clubs français arrivaient, comme le dit Bell en interview, à garder les joueurs en
service. C'est gênant, c'est quand des gamins mineurs ont une marchandise.
Et ils pouvaient se construire une petite histoire. Aujourd'hui, dès 16 ans, tu prends cet exemple-là, tu prends l'exemple de Camavinga, mais de d'autres, des jeunes parisiens. Les mecs savent que, de toute façon, ils vont être le produit que le club voudra vendre pour faire entrer des sous dans la caisse.
Mais ça a toujours existé,
les mecs,
Daniel.
Ils sont conscients du truc, donc ils vont pas s'attacher.
Mais regarde, nous, on n'est pas de la même génération avec Woody.
On ne fait rien pour développer l'attachement. On ne fait rien pour développer l'attachement d'un mec à son club. Ça n'existe plus.
Oui,
tu vas aller dire à Bordeaux. Comme ça, je prends un témoin, c'est un club qui lui est cher. À Bordeaux, au centre de formation, tu vas aller dire à des jeunes, on va construire quelque chose, Bordeaux, machin. Eh, les mecs, ils sont pas cons,
Mais il y a une solution très simple, Daniel.
Mais qu'est-ce que vous nous racontez, là?
Il y a une solution très
simple. Bordeaux, on sait même pas où ça va, on sait même pas qui est l'actionnaire, on sait même pas si l'entraîneur va rester après le mois de juin.
Non, mais là-dessus.
La plupart, ils sont même pas supporters de Bordeaux, les gamins du sang. Ils vont dire, mais moi, je fais trois matchs, je me fais remarquer.
Mais là-dessus,
vendez-moi en Angleterre.
Sur certains clubs, je suis totalement d'accord avec toi.
Mais c'est 90% des clubs en France.
Mais la solution est simple.
Non, pas 90.
Je vous la donne, la solution.
Quoi, la solution?
Gianni Infantino sort du bois et il dit, écoutez, maintenant, c'est très simple. Un joueur qui arrive dans un club, il ne pourra pas quitter ce club jusqu'à sa majorité. Il ne pourra pas et il aura l'obligation de signer son premier contrat dans ce club.
Comment tu fais?
Mais là,
18 ans, c'est rien. 18
ans. Mais Gilbert,
là, le gamin,
Gilbert,
il est obligé parce qu'il sait qu'il va rester au moins 5-6 ans, qu'il jouera ses premiers matchs pro ici.
Gilbert,
et il l'attache pas.
Gilbert, 18 ans, c'est rien. 18 ans, il y a très peu de joueurs qui jouent avant 18 ans.
Même à 17, comment à 17 ans tu peux être salarié à 17 ans?
Ouais.
T'as le droit.
Ouais.
Donc, au niveau du droit européen,
Je rappelle que l'Union européenne, t'as plus de frontières pour les travailleurs.
Mais bien sûr, t'as pas le droit.
Donc, si t'as un joueur,
sera retoqué par.
Bah, bien sûr, évidemment. Bah, bien sûr, parce que c'est contraire au droit.
Sans parler de 18 ans, c'est rien. Parce que t'as très
je descends à 17 finalement. Ans et j'interdis aussi les contrats avec les agents.
Mais les contrats avec les agents aujourd'hui,
ça, ça tu le coup.
De toute façon, la FIFA, c'est eux qui ont dérégulé complètement le schmilblick, enfin qui l'ont déréglé en disant maintenant il y a plus besoin de licence. Avant, quand t'avais au moins besoin de licence,
la licence, tu la prenais dans des pays.
Non, mais t'avais une certaine forme de contrôle.
Oui, il a raison.
Aujourd'hui, tu as. Non, ouais. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Aujourd'hui, t'as. C'est simple, tu as entre les agents, les avocats et les non déclarés, tu as à peu près 2500, j'en sais rien, joueurs pro en France, t'as à peu près 2500 intermédiaires. C'est-à-dire que t'as un intermédiaire par joueur. Pourquoi ? C'est parce qu'à un moment donné, ça a été. Alors, ils essayent de revenir aujourd'hui.
Et comment veux-tu dire à des joueurs de ne pas profiter du business et de ne pas se dire moi, j'ai 17 ans, je vais signer un
Daniel,
gros contrat.
Mais Daniel,
dans ce club-là, de toute façon, le club est bien content parce que ce qu'il veut, c'est me vendre. Eh ben, j'en profite.
Moi, ma génération.
L'agent, je lui dis arrose un peu mes parents.
Daniel, ma génération,
envoie-moi en Angleterre.
On était dans des considérations différentes parce qu'il y avait beaucoup moins d'argent sur la table. Donc, tu étais dans une forme de. Logique, t'étais formé dans un club, t'étais redevable à ton club. Aujourd'hui, la logique, elle est plus la même parce que le, on va dire, le respect des clubs par rapport à leurs joueurs a changé. Avant, on signait nos contrats professionnels dans notre club parce que notre club nous respectait aussi et on nous faisait pas sentir que t'étais qu'une boulette de viande qu'on allait vendre sur un marché.
Certains clubs ne veulent même plus aujourd'hui, et ça c'est quand même cataclysmique aussi, ne veulent même plus traiter avec les parents et ils incitent le joueur à prendre un agent en se disant bah, nous comme ça on verra l'agent, ce sera plus simple.
Voilà. Non, c'est ce qui a été fait à l'OM avec Gyatti.
Catastrophe.
C'est ce qui a été fait. Ils ont dit prenez un agent, il a pris.
Mais c'est toujours la vocation éducative. Terminé, plus rien à foutre.
Mais non,
le problème, c'est quand tu prends pas le bon agent, qui après emmerde le club.
Il faut mettre des croûtons dans la soupe.
Et aujourd'hui, le métier d'agent, surtout pour les clubs français, aujourd'hui, c'est simple. Quand vous voulez acheter ou vendre des joueurs, il y a deux solutions. Soit vous passez par votre cellule recrutement, soit vous passez par des agents. Aujourd'hui, les clubs français, à tort, à mon avis, on préférait se dire maintenant c'est plus simple, on va faire qu'avec des agents plutôt que de payer tous les mois.
Tu mets deux anciens du club qui n'ont pas de taf, juste pour les rincer un peu et puis ils foutent rien.
Aujourd'hui, alors que tu devrais avoir par exemple des cellules de recrutement avec, je sais pas, pour les pros, avec 10, 12, 15 mecs qui travaillent, enfin qui vont voir 25 matchs, genre pas 25 matchs, mais quelques matchs par semaine, qui regardent en vidéo les 25 mecs, tu vas les payer combien par mois avec les charges à la fin de l'année, combien ça coûte.
Tu passes un coup de fil à un agent, tu passes un agent dans ton catalogue.
Exactement.
Catalogue.
Donc,
et puis voilà.
C'est plus par feignantise.
Et bien sûr.
À un moment donné. Mais tu es. Et pour moi, c'est justement. Claude Puel parlait des nouveaux investisseurs ou des nouveaux présidents qui n'ont pas forcément de lien avec le football. C'est eux qui ont créé ces systèmes-là. Parce que les vieux présidents.
Oui, les historiques
qui avaient une vraie connaissance du football. Le métier d'agent était complètement différent. C'est eux qui faisaient rempart.
Alors, juste pour finir sur Puel et les entraîneurs, après on parlera de Puel et les joueurs. Il dit, il y a aujourd'hui beaucoup d'entraîneurs étrangers aussi qui présentent bien. Ils parlent quatre langues, mais bon, c'est pas le meilleur technicien. Hein. Alors ils sont distingués, ils sont en costume cravate, ils assurent un bon service après-vente. Il y a toute l'école, notamment les entraîneurs portugais. Ils n'ont pas joué au ballon, mais ils s'expriment très bien. En France, on doit prendre conscience que dans ce spectacle qu'est le football, il faut aussi un certain charisme, une qualité de présentation. Le paraître est devenu important.
Mais il dit que lui, il a changé et il a fait en sorte de suivre ses nouvelles recommandations. Il n'est pas dans l'accusation de ce que font les
autres. Il le dit à moitié. Il dit, bon, moi, je n'y arrive pas trop parce que c'est pas moi, mais bon, il faut le faire.
Là-dessus, de toute façon, le foot, c'est qu'un reflet de la société. C'est qu'un reflet de la société. Aujourd'hui, tu es dans une société où tu ne parles que des problèmes de forme. Tu ne parles plus des problèmes de fond. Donc, tu es sur des choses très rapides, tu es sur l'immédiateté, sur le changement, sur toutes les choses comme ça.
Daniel est toujours bon sur le fond, mais sur la forme, parfois, il faut qu'il s'améliore.
En revanche, sur l'histoire des Portugais, je ne sais pas où ils vont en venir, mais les Portugais, d'un point de vue technico-tactique, ont beaucoup apporté.
Je sais où ils vont en venir.
La périodisation tactique et l'université portugaise, ça a quand même été un gros apport dans le football que beaucoup d'entraîneurs ont copié. Les Français étaient complètement largués.
Daniel, la périodisation tactique, ce n'est pas l'école portugaise. Ils ont fait des bonnes choses parce que c'est des cursus universitaires, donc parfois c'était un peu plus cadré. Mais aujourd'hui, quand Claude il parle de ses entraîneurs portugais, je sais qu'il ne vise pas les entraîneurs portugais. Il vise les agents portugais. Aujourd'hui, les agents portugais, tu vas dans le monde entier, les premiers agents que tu vois toujours dans les clubs, ce sont les agents portugais.
Ils sont
c'est
forts.
Eux qui ont, ils ont été très bons.
Ils ont été très bons. Et nous, on a été très nuls.
Les héritiers de Magellan et Marco Polo.
Ouais, non,
ils investissent le monde. Parce qu'ils
ont travaillé. Ils sont très bons.
Parce qu'ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait, ça a été une forme de lobby qu'ils ont fait. Ils ont travaillé ensemble.
Alors que nous, ils ont développé.
Alors que nous, Français, on s'est tous tapés les uns sur les autres. Donc à la sortie,
la formation des entraîneurs en France était catastrophique, il faut le dire aussi.
Dans quelques instants, Kamel, avec nous, il veut réagir au 32-16. Et puis surtout, je vais vous dire ce que Puel pense des joueurs français. Là, vous allez voir que
non, je te pose la question. Elle a changé la formation.
L'after revient tout de suite avec Kamel au 32-16. Le foot selon Claude Puel, c'est intéressant. On continue d'en parler tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jean Brandon est là, Willy Sagnol est là, Daniel Riolo est là, les matchs en cours. Alors le Barça Atlético Madrid, on ne peut pas le voir à la télé en France, hein, mais sachez qu'il y a 2-2 et qu'il reste 5 minutes à jouer. Tout à l'heure, Fred Hermel sera avec nous pour tout nous raconter. Donc c'est un match serré avec l'ouverture de score par Coquet pour l'Atlético, ensuite Messi égalise, Griezmann donne l'avantage au Barça et là c'est Morata qui a égalisé sur penalty, donc 2-2 entre les deux équipes. On vous tient informés bien sûr. Kamel est avec nous avant de parler de Claude Puel et les joueurs. Salut Kamel.
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Kamel. Ça va, Kamel?
Ça va très bien.
Bon, quand t'entends là le discours de Puel sur les agents, les entraîneurs et tout, pour l'instant, t'es étonné, t'es d'accord, pas d'accord? Qu'est-ce que t'en penses?
Non, il a tout à fait raison. Maintenant, c'est vrai que le modèle de nos amis portugais, il a fait ses preuves, notamment avec les agents. Ils ont su surfer sur la vague. Et à partir de là, ils ont été compétents. C'est eux qui ont fait les meilleurs coups. Bon, c'est un modèle. Après, est-ce qu'il est copiable ou pas? Ou est-ce qu'ils ont surfé sur une vague? Évidence, ça je ne sais pas, parce que maintenant je vois que nous en France, il y a plusieurs écoles maintenant de spécialisation au niveau de la profession d'agent de joueur.
Oui, c'est vrai. Il y a des écoles qui te forment pour être agent.
Pardon?
Il y a des écoles qui forment pour être agent.
Oui, il y a des écoles qui forment pour être agent, surtout pour l'aspect juridique. Économique, d'accord, pour pouvoir accompagner le maximum les joueurs et conclure des contrats. Et maintenant, moi, montrer du doigt les agents, surtout sur le sujet qu'on parle depuis 24 heures sur les jeunes joueurs, moi, je suis d'accord pour réglementer tout simplement. Je veux dire, à 12-13 ans, un agent n'a pas du tout à discuter avec un jeune joueur. C'est anti-moral, c'est anti...
Et pourtant, c'est ce qui se passe.
Ça dépasse le domaine du sport et du football.
Je suis d'accord.
Maintenant, ça, c'est facile. Ça, c'est aux dirigeants, à nos dirigeants de mettre des règles. On réglemente tout ça. Et avant 18 ans, c'est les parents qui doivent... Ou un tuteur nommé. Mais pas un agent, d'accord, ça je suis complètement d'accord.
Mais maintenant, mais ils le font, les clubs amateurs le font, essayent de bloquer les séances d'entraînement et tout ça aux agents. Le problème, c'est qu'après,
ils n'y arrivent pas.
Non,
pas
après quoi.
Moyens, avec leurs moyens.
Et oui, et puis après, t'as aussi l'entourage, parce que quand t'as 12-13 ans, forcément, c'est les familles.
Il faut parler du métier d'agent, mais de le voir d'une façon un peu différente. Le métier d'agent, il a changé avec le temps. Avant, on pouvait dire que c'était des conseillers, maintenant ce sont des agents. Un agent, tu ne lui demandes pas d'être là pour faire évoluer la carrière d'un mec. Un agent, c'est un mec, à un moment donné, quand tu vas à la FIFA, il ne te parle pas d'agent, il te parle d'intermédiaire. Hein. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est-à-dire que l'intermédiaire, il est entre deux, il y a deux entités, et l'intermédiaire, il est au milieu et c'est lui qui fait les choses.
Il y a un truc que moi, je ne sais pas,
alors
excusez-moi.
Alors qu'avant, l'agent était considéré par les, que ce soit par les parents, par les joueurs, par les clubs, comme quelqu'un qui allait conseiller le joueur au fur et à mesure de sa carrière.
Oui, donc il était, pas que, en plus.
Alors, il pouvait, bien
pas
sûr,
que, ça pouvait être un confident. Hein.
Exactement, mais donc il pouvait y avoir des erreurs, il pouvait, bien sûr, parce que personne n'est parfait, mais il y avait une forme quand même de l'objectif quand même final était le bien-être du joueur.
Bien sûr.
Aujourd'hui, les agents ne sont pas là pour le bien-être des joueurs.
Non,
ils sont simplement là pour être intermédiaires à un moment donné quand il y a une transaction financière.
Et parce que les clubs en ont besoin.
Alors,
c'est pour ça
qu'on parle maintenant de Claude Puel qui parle des joueurs, si vous le voulez bien, parce que là aussi c'est très intéressant. Alors, il parle de son expérience à Leicester et il dit, moi quand je suis arrivé, déjà je leur ai dit lors de mon entretien, il y en a que 3 à garder chez vous, sinon de toute façon vous allez dans le mur. Je pensais qu'ils allaient jamais me prendre. Finalement ils m'ont pris. Bon, je me suis engueulé avec les recruteurs. Il dit, les gars me proposer que des profils non techniques qui ne comprenaient pas le jeu. Tout basé sur le physique. Là, il parle en Angleterre, hein, pas en France. Donc il dit, bah, moi, nous, c'est pas ce que je voulais. Donc voilà. Donc il dit qu'aujourd'hui, le réussite de Leicester, il en est très content parce qu'il s'en attribue quand même indirectement.
Et il a raison. Et voilà. Il a raison.
Et il dit d'ailleurs, c'est mon plaisir de voir quand je pars d'un club que derrière ça réussit, parce que ça veut dire que j'ai pas si mal bossé que ça.
C'est quand même mieux quand ça réussit que t'es là.
Oui, non, mais bien sûr. Mais à un moment donné,
parce que Brendan Rodgers, c'est quand même
un entraîneur qui lui n'a rien fait, en
qui
fait.
A réussi. Ça veut dire que t'enlèves.
Non, mais il n'a pas complètement tort.
Mais non, mais c'est pas que ça. Il y a un message qui passe. Il y a la façon dont le joueur reçoit le message de l'entraîneur, la façon dont il est motivé par les mots.
Pourquoi Puel n'avait pas les résultats de Brendan Rodgers?
On peut pas me dire. On peut pas me dire. Ok, peut-être il a construit. Peut-être il a. Si le mec il a recruté les joueurs,
Daniel,
je vais raconter
une chose.
Deux, trois fruits.
Je vais raconter
une chose. Sinon, faut pas me raconter.
Je vais raconter une chose. C'est et je pense que ça peut. Quand Puel était à Leicester, il y avait un joueur qui arrivait en fin de carrière et Puel ne voulait pas prolonger. C'était l'ancien capitaine Morgan, le défenseur central. Voilà.
Attends, je vais te retrouver ce nom tout de suite.
Oui, c'est Morgan, West Morgan aussi, je crois que c'est West Morgan, c'est ça.
C'est ça.
Et tu as quand même il y a une partie du vestiaire qui après a été contre Claude par rapport à son management.
Bah donc.
La première chose qu'a fait Rodgers en arrivant, il n'a pas amené un nouveau style de jeu, il n'a pas amené une nouvelle technique, il n'a pas amené une nouvelle façon de parler aux joueurs. La première décision qu'il a prise, ça a été de prolonger Wes Morgan, qui était remplaçant et qui est toujours remplaçant.
Mais Willy, mais
il n'empêche pour gagner le vestiaire.
Voilà. Tu peux pas dire que c'est pas une bonne idée. T'as vu la situation du club aujourd'hui.
Je dis pas que c'est pas une bonne idée.
C'est une très bonne décision.
C'est pas une bonne idée. Mais
ça,
si aujourd'hui,
ça fait partie des choses.
Parce que Brendan Rodgers, c'est très bien. Moi, je suis content pour lui parce
Jérôme,
que
t'es pas d'accord.
Je l'ai rencontré quand j'étais avec Bordeaux.
Bien sûr, on a des choses pour le
savoir-faire. Mais aujourd'hui, on est en train de dire Rodgers, c'est un super manager. Alors que quand il a été à Liverpool avec des super joueurs, la dernière année, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, si Rodgers réussit, c'est un par rapport
année, mais
à ses compétences.
Il a eu des bons moments avec
parce qu'il a des bonnes compétences. Et de deux, c'est parce que les bases amenées par Puel étaient bonnes. Quand Puel dit on est passé de l'équipe la plus vieille en âge à l'équipe la plus jeune en âge, c'est parce que ça correspond aux demandes du football moderne avec des joueurs capables de faire beaucoup d'efforts sur les transitions. Donc t'es obligé d'avoir des joueurs plus jeunes. Et ce qu'il a réussi à faire en peu de temps à Leicester, alors. Peut-être que son management, peut-être qu'il y a eu des choses où il aurait dû aller à contre-nature, notamment sur des prolongations de contrat pour avoir la paix. Ça fait peut-être partie des choses importantes. Mais aujourd'hui, il faut dire que Rodgers aussi bénéficie des bases mises en place par Puel.
Alors, Puel sur les joueurs de la Ligue 1. Clément Guy, au Journaliste du Monde, lui dit « Alors, quelle est la raison de la tristesse du jeu en Ligue 1 ?» Alors, il dit « Il y a plein de facteurs, mais le premier, c'est la priorité donnée, y compris dans les centres de formation, aux joueurs physiques, percutants, mais sans créativité. C'est le principal problème. Ce sont des choix structurels faits par les recruteurs à la formation dont on découle l'absence de fluidité du jeu en Ligue 1. » Voilà, ça, c'est ce qu'ils ont dit dans l'after depuis
10 ans qu'on le répète.
Oui, mais quand c'est dans la bouche d'un coach en activité, excusez-moi.
Jérôme le dit sans arrêt, ouais. Il parle de son. Ça, c'est ce qu'on dit depuis.
L'idée qui sous-tend le recrutement de ces joueurs massifs bons dans l'impact, c'est la crainte du résultat, la volonté de se sécuriser.
Bah, bien sûr.
Et on pense football après ça. Voilà ce que dit Claude Puel.
Là, je suis juste content. Bon, j'avais pas besoin que Puel nous dise qu'on a raison. On a raison depuis très longtemps.
Si tu as un président.
Mais j'aime bien quand des entraîneurs comme ça nous.
Mais tu sais quoi, c'est très simple. Si tu as un président qui a la passion du foot, l'amour du foot et les connaissances du football, il va aller prendre tous ses entraîneurs du centre de formation et va leur dire l'objectif de l'année, c'est pas de gagner, c'est que les joueurs progressent. Parce que c'est des joueurs conformes qu'on veut avoir quand on est en pro. La problématique aujourd'hui, et c'est. Une vérité, c'est que tu as encore beaucoup trop de dirigeants qui se gargarisent quand il y a leur U17 qui sont champions nationaux. Tu t'en fous quand tu fais de la formation que tes U17 soient champions nationaux. Tu veux que ton mec soit bon à 20 ans. C'est pas que la faute. Parce que Claude parle des formateurs, que c'est un peu de la faute des recruteurs et des formateurs, mais ça correspond aussi à des demandes des dirigeants.
Bien sûr.
Voilà.
Dans certains clubs, t'as des entraîneurs de jeunes qui se tirent la bourre entre eux.
Aussi, parce que chacun veut être champion. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je pense que toutes les philosophies, tous les projets, toutes les lignes directrices, ça part toujours d'en haut. Et quand en haut, la ligne directrice, elle est « il faut gagner le championnat
de
la 17,
façon,
il faut gagner ici », tu peux pas changer.
Façon, je critiquais quand on se gargarisait des titres en jeunes que les Bleuets ont pu avoir en U17. Je dis « ok ».
T'imagines qu'aujourd'hui
on s'en fout complètement.
Exactement.
Alors regardez juste comment ça joue. Parce que l'équipe qui a fait demi, mais qui jouait très bien, je peux vous assurer qu'on retrouvera plus de ces joueurs-là.
C'est pas propre à ces dernières années. Ça a toujours existé, ça.
Regarde les dernières
générations, et ça remonte. C'était dans les années 90. C'était pareil.
regardez c'était les pareil, dernières années.
Comme si avoir gagné avec les U20 et les Espoirs, ça t'assurait derrière. En 88, l'équipe de France Espoir, c'est son dernier titre, était championne d'Europe. Ouais. On se souvient des joueurs qui composaient cette équipe. Stéphane en 90, Paris, les Bleus vont pas à la Coupe du Monde. En 92, l'Euro se passe mal. En 94, pas de la Coupe du Monde ne s'y est pas. C'est derrière a suivi la période la plus noire des Bleus.
Ouais, et la dernière chose que je veux dire par rapport à ça, c'est aujourd'hui, t'as des clubs qui, quand ils ont la chance, pour eux, la chance de gagner la Gambardella, ils disent, on a gagné la Gambardella.
C'est une connerie, mais je le dis tout le temps.
Combien Saint-Etienne? Combien la génération
Gambardella? Ah ouais, mettez-nous la Gambardella, voilà.
Combien de joueurs champions du monde français?
Il y en a plein, des supporters qui disent ça.
Non, mais combien de joueurs champions du monde français ont gagné la Gambardella?
Je sais pas.
J'ai pas le chiffre, mais je pense le savoir. Voilà. Mais il faudra aller voir.
Pour France 2-0.
Mais si, le ratio, il est
Monaco,
inexistant.
Monaco a dû le gagner avec Thierry Henry.
Moi, si Dugas n'a pas gagné la Gambardella avec Bordeaux.
Son seul titre en club. C'est peut-être
Coupe de la Ligue.
Ah oui, aujourd'hui, il faut arrêter de voir, comme dit Claude, l'immédiateté. Il faut savoir voir ce qui va se passer un petit peu plus tard. Mais c'est les dirigeants des clubs qui sont de plus en plus impatients.
Et pour conclure, sur l'instabilité des effectifs, il dit là aussi ce que dit l'After depuis des années. Il dit on se fait dépouiller. Il dit dans l'esprit des joueurs aujourd'hui en Ligue 1, il reste un an ou deux. Ils s'investissent pas parce qu'ils pensent déjà à partir à l'étranger. Voilà. Donc, il dit, nous, en France, on est obligé de remplacer et non pas de recruter pour rendre l'équipe meilleure.
C'est parce qu'on leur le fait comprendre.
Mais ça, c'est pas que de la faute des joueurs. Dans ce cas-là, c'est la faute des clubs.
Ils sont formés pour être vendus.
C'est la stratégie des clubs.
Ils sont formés pour être vendus.
Ça a toujours existé. Ça,
c'était pas comme ça, Jérôme, avant.
Oui, mais on nous a toujours mis dans la tête, à l'âge de 16, 17, 18 ans, que de toute façon, on était une marchandise. Donc, on est une valeur marchande.
Moi, je l'ai pas.
Tu l'as pas senti comme ça?
Comme ça, non. Je ne l'ai pas senti comme ça. Pour moi, quand j'ai commencé à jouer en pro à Saint-Etienne, je me disais, je vais peut-être continuer à Saint-Etienne. Bon, après, le club est descendu en Ligue 2, il y a eu des problèmes financiers. Donc, après, tu pars et puis après, tu découvres un peu le monde, comme on dit. Mais avant, je pense que tu étais un peu moins dans cette. Tu savais que tu allais peut-être être amené à partir, mais l'immédiateté, c'était ton club, c'était.
Oui, d'accord.
On s'arrête là. La Super Coupe d'Espagne, les gars, ça se passe pas comme le scénario le voulait. Il y aura pas de Barça Real en finale, puisque l'Atlético a marqué à la 86e par Andrés Correa. 3-2 pour l'Atlético qui jouera donc face au Real.
Et ils la font où la finale en Azerbaïdjan, non?
Non, en Arabie Saoudite.
Encore, d'accord.
Ils ont pris 180 millions, là, donc ils vont pas partir.
Je crois que c'est 35 millions par équipe. Ouais.
C'est pas mal. Merci, Willy.
Merci à vous.
Merci Willy, bravo.
C'est notre la Coupe de la Ligue, on aurait pu la garder, puis faire les demi-finales et finales aussi en Arabie Saoudite, ça aurait fait rentrer de l'argent pour les clubs.
On va pas critiquer les Espagnols alors qu'on fait le trophée des champions en Chine quand même.
Non mais on a beaucoup critiqué Javier Tebas. On l'a énormément critiqué.
Oui, parce qu'il a allumé le foot français. Alors
mais on se rend compte qu'il fait pas mal de bonnes choses aussi pour le foot espagnol.
Merci Willy, bonne soirée. Dans quelques instants, on est de retour avec Rennes au programme, la préparation physique également.
Ça tombe bien parce que Cyril Moine, tiens.
Mais Cyril Moine.
Moi, j'ai envie de me le faire. Je sais pas. Ça fait des années, j'ai envie de me le faire.
Bah écoute, c'est pas sympa. Il est pas là.
Je veux pas me le faire.
Allez, à tout de suite dans l'after. On se retrouve dans quelques instants, juste après les infos. Et on remercie Kamel au 32-16 qui était avec nous.
RMC jusqu'à minuit. L'after foot. 3 is a magic number. 300 schemes to help bugs and bees, supporting environmental needs. 8,000 grants for local sports, and performing arts get our support. 7 millionaires every week, the nation's on a winning streak. 30 million pounds to good causes every week. Who'd have thought it? These are magic numbers.
Your numbers make amazing happen. The National Lottery.
Rules and procedures apply. Players must be 16 or over.